Bonjour, ce n'est pas nouveau, la terre à boire aime bien aller se balader, rencontrer les vignerons. Alors souvent c'est surtout à Paris, dans des salons des vins ou dans des dégustations organisées par leurs agents. Mais cette fois nous avons fait le grand pas, la terre a pris le train et elle se retrouve dans le sud, à Montpellier, en Occitanie, la capitale des vins du Languedoc. Il faut dire que nous avons quelque chose à fêter. Nous on a envie de le fêter, c'est le 50e épisode. 50 épisodes déjà à parcourir les vignobles et à peu près toutes les régions françaises. Bientôt 2 ans de plaisir et de rencontres que nous vous proposons de célébrer aujourd'hui avec dans un lieu magnifique et chaleureux, des invités, des surprises et bien sûr de beaux et bons vins. C'est le 50e épisode, il est double et il se nomme Vin du Languedoc, le jour de gloire est arrivé. Bienvenue dans la terre à boire. Et nous sommes donc à Montpellier, nous sommes plus précisément dans un bar à vin qui s'appelle le Trinque Fougas et on va y revenir bien sûr. Je suis avec Florence Saragoni. Bonjour Florence.
Bonjour.
Toi aussi tu as fait le voyage. Voilà, on n'est plus à Paris, on est dans le sud. On ne peut pas dire que le soleil soit vraiment au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Il va se pointer à un moment ou à un autre. Et je suis également avec Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Ravi de vous avoir.
Bah, très bien. Alors on n'a pas pris le train, mais on a pris la voiture et on a pu voir les magnifiques paysages qui nous séparent de Clermont-Ferrand à Montpellier.
Superbe route. Régional de l'étape, comme on est à Montpellier, forcément, Maxime est là de Tire-Bouchon. Salut Maxime.
Et bonjour, merci encore une fois pour l'invitation.
Ah ben non, ça fait plaisir. Pour une fois, on est dans ton territoire.
Ah oui, j'habite à 20 minutes d'ici. Ouais.
Et puis les vins du Languedoc, avec les vins des Côtes-du-Rhône, c'est vraiment ton territoire de chasse.
Je découvre ouais. Encore le Languedoc.
Et à vrai dire, Tire-Bouchon, vous avez déjà fait un enregistrement ici au Trinque Fougas.
Oui, oui, c'est ça, on a déjà rencontré ton prochain invité.
Mathieu Boudet, c'est toi le patron ici, c'est toi qui gères le Trinque Fougas au sud où nous nous trouvons.
Bonjour, bonjour, en effet oui, au sud et au nord également, un peu les deux, et bienvenue.
Ben, merci.
Content de vous accueillir aujourd'hui, malgré le temps, on espère que le soleil va arriver.
D'abord tu n'y es pour rien, ensuite ça ne dure jamais très longtemps le petit passage nuageux. Et surtout un grand merci à toi parce que vraiment le lieu est sublime, voilà, à côté du bassin Jacques Coeur. C'est un très 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 grand bar à vin. Alors, peut-être que c'est les standards parisiens, mais nous, des endroits comme ça, on n'en a pas beaucoup.
C'est assez grand.
Oui. C'est des très grandes brasseries et on n'a pas les moyens d'y aller. Mais c'est très chouette ici. On va revenir avec toi sur l'histoire du Trinque Fougas. Et le dernier invité autour de la table, parce que la terre à boire sans un vigneron autour de la table, c'est assez rare. Ceux qui nous écoutent le savent. Bonjour André Lénart.
Bonjour.
André Lénart, vous êtes vigneron au château de Cazeneuve. En l'appellation Pixel.
Oui, tout à fait. Voilà, un des terroirs de la famille du Languedoc, et qui est bien représenté ici chez Mathieu, puisqu'il y a une offre exhaustive du Languedoc ici à Trinque Fougas.
Il y a un nombre de bouteilles impressionnant. Ce qui est sympa dans le bar, c'est qu'elles sont présentes partout, en fait. Il y a des bouteilles partout.
Exactement, où, ouais,
partout
autour,
on regarde.
Toujours.
Mais il n'y a pas que du Languedoc, mais il y a quand même une grosse représentation.
90%, 80% de Languedoc, on va dire. Voilà.
Le reste, c'est un peu de Provence, un peu de Rhône.
Un peu de Roussillon, et oui, un peu de Provence.
Vous avez des bars alsaciens quand même ou pas?
Un petit peu. Ah oui, ouais, une référence.
Bon, donc on se retrouve pour parler de vin du Languedoc. On a l'habitude de faire un petit tour de table souvent, avant d'adresser comme ça une région et de se dire, mais voilà, ça évoque quoi? C'est quoi les vins du Languedoc? D'abord, on a Patrice qui, en général, nous fait un petit...
En général, c'est moi qui m'y colle.
Un petit pitch pour nous replacer tout ça sur la carte du vignoble français.
Donc, Languedoc, c'est un très, très grand territoire qui va de l'ouest de Montpellier au sud de Narbonne. Alors, on pourrait aller jusqu'à Perpignan si on comptait le Roussillon, mais on va s'arrêter au sud de Narbonne et à Fitou, qui est juste au sud. C'est un grand territoire qui fait 220 000 hectares. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de 450 à 220 000 en 30 ans. La bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'avant, on avait globalement beaucoup de quantité et peu de qualité. Et là, on a réduit pour monter et grimper un peu dans les hauteurs, dans les collines, pour donner un peu de fraîcheur. Et c'est, je pense, une des raisons de fond du qualitatif, c'est qu'on a baissé les superficies pour monter dans les terroirs, dans les collines, pour aller chercher le goût de la terre un peu plus profond et un peu plus en hauteur, pour donner un peu plus de fraîcheur. Parce qu'en général, on est en Languedoc, on a plutôt des vins... riche ensoleillé, donc c'est bien de prendre un peu de hauteur pour donner un peu de fraîcheur. Voilà, après c'est un climat plutôt méditerranéen avec des belles amplitudes thermiques justement quand on monte, ça pourrait se rapprocher un peu de la Corse, hein. On a du soleil en journée, mais la nuit, ça permet aux raisins en général d'évoluer plus en douceur, Et donc là, pour moi, ça permet de rapprocher un peu ce type de climat d'un climat corse, avec le côté à la fois méditerranéen, mais aussi la fraîcheur montagnarde. Après, on est en Languedoc à 75% en rouge, quand même globalement, et à peu près 23-24% blanc, donc on a quand même une dominante de rouge dans les vins. Et on a aussi de plus en plus, sur les dernières années, des cépages locaux qui sont re-révélés. On avait beaucoup de cépages, on va dire, importés, hein, de Syrah, etc. Mais là, il y a du Carignan, du Grenache, il y a des choses de Terrel, je crois, enfin, on en parlera, Saint-Saud, exactement. Et on les révèle de plus en plus, et on les révèle de plus en plus aussi en monocépage. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis assez fervent du catalyseur cépage pour révéler le terroir. Et le cépage unique, pour moi, c'est la meilleure manière de le faire, mais ça, c'est mon point de vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est passé sur des choses beaucoup plus authentiques, avec à la fois des monocépages et des vins d'auteur. Et donc, on a vraiment une montée qualitative incroyable dans le Languedoc depuis quelques années. Moi, c'est des vins que je trouve hyper intéressants. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur, un petit faible pour les terrasses du Larzac, mais ça, c'est juste parce que j'ai passé un peu de temps. C'est comme souvent quand on va voir des vignerons et qu'on passe un peu de temps dans les vignes. Mais la prochaine fois, promis, on ira passer du temps en Pic-Saint-Loup, en Faugères, en Saint-Chignan. Mais il y a aussi 12 AOC, hein, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et après, d'un point de vue, on a parlé un peu de climat, on a parlé un petit peu de cépage. Donc il y a quand même les cépages phares. Malgré tout, ça reste la Syrah en rouge, en termes de volume et de taille. Et de manière assez étonnante, on ne le sait pas, mais c'est le Chardonnay en blanc, hein, qui est encore dominant sur les... En tout cas, la taille, même s'il y a plein de cépages en blanc qui se révèlent. Mais donc, on va dire que c'est les cépages classiques, mais il y en a plein de petits qui sont en train de grandir en surface. Et d'un point de vue de terroir et pédologie, enfin, et géologie des sols, pendant 200 millions d'années, il y a une mer, hein, qui était sur ces territoires-là du Languedoc. Donc, on a quand même une base qui est assez sédimentaire, avec énormément de variantes. On a beaucoup de calcaire, beaucoup d'argile, beaucoup de schiste. On a moins de granit, hein, on est plutôt sur les contreforts. On est vraiment, en gros, on a une montagne granitique qui s'appelle le massif central, tout en haut, là-haut. Et petit à petit, plus on descend sur la mer et la Méditerranée, plus on a des terroirs sédimentaires avec différentes couches. On a pu les voir là sur la route en venant. On a une couche de calcaire rouge et puis on voit bien d'argile rouge. Et on a des calcaires dessus. Donc voilà, tout ce millefeuille qu'il faudra qu'on regarde de plus près. Voilà.
Bah, merci pour cette intro. Ça va, rien à ajouter, des choses à préciser?
Ah non, je crois que c'est parfait. Enfin, je veux dire, il faut peut-être expliquer que le Languedoc, c'est un grand amphithéâtre qui est tourné vers la mer, et que l'histoire de notre terroir récente, hein, c'est qu'on a découvert, nous, qu'on avait une mosaïque de terroirs vraiment intéressants, plus intéressants les uns que les autres, et qu'avec chacun, leur spécificité. Donc on a évoqué plusieurs terroirs qui ont des dynamiques d'appellation, et je crois que c'est ça qui fait la richesse du Languedoc, quoi. Une variabilité, une multiplicité de terroirs différents sur autant la nature des sols que sur les expositions ou que sur le climat.
Mathieu Boudet, on est au Trinquefougas dans un lieu qui est particulièrement intéressant pour l'observation, parce que le bar à vin, c'est ton père qui l'a fondé.
Oui, exactement.
À un moment, tu nous le disais, où les vins du Languedoc ont commencé à changer. Raconte-nous un peu l'histoire.
Ah oui, en effet, c'est vrai que mon père a eu la chance d'avoir un bar qui s'appelait le Jogging avant le Trinquefougas. Et il était situé pas très loin d'Agropolis, en fait, du lycée agricole. Et il a rencontré tous les futurs vignerons qui finissaient leurs études. Et il a vu la volonté de ces hommes. Il a vu la volonté de ces hommes d'exprimer le terroir, de faire des vins, de faire des grands vins en Languedoc, quoi, voilà. Et donc il a commencé à les suivre et à vouloir communiquer et vendre les vins du Languedoc.
C'est dans les années 90, et en gros, c'est ça, ces années-là dont on parle.
98, c'est ça, et c'est là où...
vingtaine d'années qui vient de s'écouler.
Ça avait déjà commencé un petit peu avant, bien avant, mais c'est là où vraiment l'explosion a eu lieu et où on voit éclore aujourd'hui des grands vins qu'on va goûter maintenant.
Florence, Languedoc, ça t'évoque quoi?
Ça m'évoque beaucoup de choses très différentes. Ça va être un vin, une cuvée, je pense aux Aurelles, hein, par exemple. Ça peut être aussi à Saint-Sylvestre dans le Larzac. Au Weiss, par exemple. C'est vraiment un vin comme ça.
Ça, c'est des domaines que tu cites là.
Voilà, que tu goûtes comme ça à l'aveugle et tu fais waouh. Et puis sinon aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les accompagnements, Picpoul de Pinet, avec les huîtres de l'étang, avec les traboriec par exemple. Bon, voilà, c'est, tu dégustes ces huîtres, tu as la vue sur l'étang, tu as une jolie bouteille de pic-poule de Pinès. voilà, c'est des souvenirs comme ça, des bons one-shots.
Maxime, Languedoc, pour toi, ça évoque quoi ?
Alors, bah, Languedoc, pour moi, ça évoque une erreur, mon erreur, je l'admets, parce qu'en tant que Vauclusien, sûrement un peu con, qui a grandi autour du Ventoux, pour moi, il n'existait que les Côtes-du-Rhône Sud, et le Languedoc, c'était des gens qui faisaient du volume et pas de la qualité. Et maintenant que j'y habite, depuis bientôt un an, j'habite à Sommières, donc je barule au Pic Saint-Loup, dans la haute terre de Sommières, tout ça.
Je barule, ce terme n'a jamais été utilisé encore dans l'émission.
Il fallait venir ici pour entendre
les gens du Nord.
Et, du coup, je vais rencontrer les vignerons, je commence à goûter pas mal de vins du coin et franchement, je me régale. Et comme le soulignait M. Lénart tout à l'heure, c'est vrai que c'est très très grand, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de Syrah qui sont très jolies ici, alors que pour moi, avant la Syrah, c'était Drôme Ardèche et c'est tout. Et on a des très jolis Syrah. Et si on descend du côté de Narbonne aussi, on peut trouver même des jolis Mourvèdre. Donc on a tout un panel de vins super intéressants et de quoi se régaler. Quoi.
Parlons de Mourvèdre, on y reviendra quand on parlera avec de vos vins, André Lénart. Mais moi, j'ai goûté chez vous un 100% Mourvèdre. Me semble que vous
95%.
Vous avez une cuvée et ça m'a révélé complètement le Mourvèdre de goûter ce vin. Bon, on y reviendra parce que là, on a un petit vin dans les verres. C'est toi, Mathieu, qui l'a sélectionné. Ça s'appelle Adélaïde du
Mas d'Aimé.
Le Mas d'Aimé.
À Poussan.
À Poussan.
Juste à côté de Montpellier.
Et c'est un blanc.
C'est un blanc, en effet. Un vionnier 100%. D'accord. Et élevé et vinifié en barrique. Enfin, 6 mois. Voilà. Et un vin dans l'esprit nature, on va dire, puisque mon traitement de vigne. Pas de rien d'ajouter.
Pas d'intrant.
Pas d'intrant.
Label bio ou pas ?
Non, pas de label. Tout petit, 4 hectares. D'accord. En fait, trois copains vignerons, en fait, on va dire. Trois copains vignerons. Enfin, un vigneron, un musicien et un homme un peu qui touche à tout, qui fait tout. Et voilà, et donc un petit sympathique à présenter.
Très sympathique, petit blanc. Pur vionnier. C'est Condrieu qui fait des purs vionniers en blanc.
Oui, on les avait retrouvés en Rhône-Nord. Le vionnier, c'est quand même là où ici. Il est le plus connu. Hein. Après, c'est vrai qu'il gagne beaucoup le sud. Enfin, petit blanc, on est quand même à 14,5.
Oui, voilà.
On sent que. Voilà.
Mais petit blanc, pour moi, c'est pas.
Ça dépend comment on interprète petit. Mais là, effectivement, on est sur un blanc qui est quand même assez corpulent, assez riche. Bon, après, le cépage en soi est assez riche déjà. Mais par contre, effectivement, la première sensation, c'est qu'on n'est pas trop dans l'exubérance du vionnier, donc ça me plaît bien.
Parce que j'allais te dire, il y a une.
On en avait parlé du vionnier, c'est vrai que. Il est assez humble et c'est bien parce que le vionnier est comme.
Très exubérant.
Voilà, le deuxième verre du vionnier, moi j'ai toujours du mal. mais là, parce que c'est bien, mais c'est quand même hyper corpulent, hyper riche. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même assez frais, assez acide après. Enfin, acide, une belle amertume et une belle fraîcheur quand même derrière. C'est peut-être pas acide.
C'est bien équilibré, il y a une belle fraîcheur.
Un bel équilibre.
Ça me fait penser à ce que tu disais aussi, quand tu disais qu'en blanc, le cépage le plus planté en Languedoc, c'est le chardonnay. Pour autant, il n'apparaît pas dans les appellations, a priori. Donc, c'est vraiment le vin de pays. Donc, en vin de pays, on va faire ici du chardonnay, on va faire du vionnier. C'est pareil, le vionnier, est-ce qu'il est dans les. Si, ou, il est dans les appellations.
Oui, depuis pas longtemps. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un vionnier. Cépage en première dégustation, parce que le vionnier, par exemple, c'est un cépage sur lequel on a travaillé et qui a été inclus dans les propositions de notre décret Languedoc blanc il n'y a pas très longtemps. Et qu'il y a eu comme ça une réflexion avec l'ensemble des vignerons du Languedoc sur quels étaient les cépages qui étaient le mieux adaptés. Par contre, il faut aussi reconnaître que notre région viticole est une région dite mixte, c'est-à-dire que les vignerons sur les terroirs ont la possibilité de produire des vins d'appellation, mais ont aussi la possibilité de produire des vins cépages ou des vins pays de zone ou des vins pays d'oc. Et donc, c'est des choix de vignerons et de vinificateurs de s'orienter vers telle ou telle catégorie de vins.
Et ils ne s'en privent pas d'ailleurs. C'est-à-dire
alors, le vionnier est un des cépages sur lequel on peut effectivement faire des très grands vins de pays d'oc ou des vins cépages, mais aussi il a été inclus dans les cépages autorisés en Languedoc. Et du coup, on a le droit en Languedoc blanc d'utiliser du vionnier en assemblage.
En IGP Languedoc. Bah en tout cas, moi, c'est un très joli vin, je trouve. Je ne m'attendais pas forcément effectivement à goûter un vionnier. Ici, on a les trucs. Moi, je suis un peu comme Maxime, j'ai plus mes standards Rhône-Sud. Je m'attends à avoir de la Marsanne, Roussanne, des choses comme ça. C'est très joli, c'est très frais et très agréable.
C'est vrai que sur les cépages blancs, c'est un peu, y a un peu tout, en fait, hein, dans le Languedoc. Hein, on va trouver du Vermentine. Moi, je sais que j'ai goûté un vin d'Alain Chabanon en terrasse du Larzac qui est moitié Vermentino, moitié Chardonnay, qui est assez... Moitié Chenin, moitié Vermentino. Ouais, exactement, le Trélar, qui est un vin très très joli. Et c'est vrai que pour le coup, on a à peu près tous les cépages blancs qui existent. En tout cas, on en a beaucoup. Alors après, à part les Alsaciens, je pense, et le melon de Bourgogne, je pense qu'on a à peu près tous les cépages blancs qui s'expriment sur les terroirs du Languedoc.
André Lénart, le vin qu'on va goûter de vous plus tard, ce sera un rouge, mais en blanc, vous avez aussi des cuvées de blanc. Quel cépage vous travaillez sur le domaine de Cazeneuve?
Alors moi, sur le domaine en blanc, on travaille sur une multiplicité de cépages, puisqu'on a 7 cépages qui ont été replantés depuis les années 95. Donc, c'est effectivement les cépages que vous venez de citer, hein, Marsanne, Roussanne, un peu de Clairette, un tout petit peu de Viognier. On a aussi des Muscats, un petit peu de Muscat, et des Grenaches blancs. Voilà. Et on a essayé d'adapter l'implantation de ces cépages à notre terroir. Voilà, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est un choix... ambitieux de Mathieu de commencer par une dégustation de blanc, parce que je pense que le Languedoc, qui est une région méridionale, on a souvent peut-être des a priori sur nos blancs. Hein, c'est vrai qu'on a une région viticole qui est moins pertinente pour le côté acidité, mais je crois qu'on a en Languedoc des terroirs tout à fait adaptés à faire des grands blancs, avec leurs spécificités, c'est ça qui est intéressant, et que nous, vignerons, on continue à travailler pour adapter l'implantation de nos cépages au terroir. Et aujourd'hui, par exemple, sur le terroir du Pic-Saint-Loup, il y avait des zones qui étaient pas sur lesquelles on s'était dit on mettra jamais de vin, on plantera jamais de vignes là-bas. Et en fait, ce sont des terroirs, soit parce qu'ils ont exposé plein nord, soit parce que la structure du sol fait que ce sont des terroirs assez tardifs, ce sont des terroirs qui conviennent très très bien au blanc. Donc je crois qu'il faut arrêter de dire que le Languedoc est peut-être une région moins de blanc que de rouge. Quoi, voilà.
Wow. Complètement d'accord avec ça.
Oui, puis moi, le premier coup de cœur que j'ai eu en terrasse du Larzac, c'est le blanc du domaine Saint-Sylvestre, hein, c'est le coup de calcaire. Leur chardeau, je trouve que c'est... Alors d'abord, c'est une expression très, très, très différente de ce qu'on trouve en Bourgogne, alors qui est effectivement beaucoup plus riche, mais moi, j'y trouve franchement beaucoup plus d'intensité et de profondeur que... Alors, enfin, une profondeur nouvelle, on va dire, ou différente de ce qu'on peut trouver en Bourgogne. Donc on a des expressions de cépages blancs avec beaucoup, effectivement, beaucoup de tension. Et je crois que, encore une fois... on va être allé un petit peu fervent, mais la biodynamie permet au blanc de s'exprimer. Parce qu'encore une fois, si les racines vont plus loin, elles vont chercher plus dans les sols, elles vont chercher bien l'acidité. On avait parlé de ça un peu avec Antoine Arena sur les blancs corses aussi, qui n'avaient pas forcément une image, qui avait une image de richesse. Mais encore une fois, plus on fait de la bio, plus on fait de biodynamie, plus le blanc va chercher loin, et plus on va chercher cette minéralité, si ce n'est pas de l'acidité du cépage, mais en tout cas de la minéralité du sol, qu'on n'a pas fort en général sur le travail conventionnel. Donc merci à la biodynamie de donner des blancs plus équilibrés et plus acides dans le sud. Et encore une fois, j'ai énormément de coups de cœur, pratiquement plus de coups de cœur en blanc en Languedoc, parce que les rouges, on sait qu'ils sont bons, quand ils sont bien faits, quand ils sont équilibrés. Mais c'est vrai que les blancs sont géniaux. Quoi. Enfin, moi, je trouve les blancs géniaux.
Très joli blanc, et c'est vraiment très chouette de commencer par celui-là, parce que ben pour un Viognier, il est ciselé, quoi. Il en fait pas trop. Le Viognier qui a tendance à être en mettre un peu plein la vue, là, on n'est pas là-dessus. On est dans beaucoup d'élégance.
Il est en train de manger un petit peu.
Ouais. Alors j'allais te poser cette question. Puisque c'est aussi un restaurant, évidemment ici Trinque Fougas. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce que tu conseilles de manger avec ce vin-là? Notre spécialiste à Corse, c'est Florence. Hein, on va nous donner son avis après.
Je vais écouter les conseils de Florence.
Non, mais c'est vrai que ça donne envie de faire des fruits de mer et avec peut-être des accents un petit peu plus ensoleillés, des choses préparées avec un peu de tomate, avec un peu de poivron, parce que voilà, ça tient bien. Il y a la fraîcheur de l'acidité pour les fruits de mer et puis il y a le côté soleil pour pouvoir mettre des fruits et des légumes derrière un petit peu plus ensoleillés.
On voit bien les petits légumes là, un peu revenu à la poêle,
à la plancha.
Un peu de poulpe peut-être sur une plancha également.
Poulpe, moule, avec un petit peu de piperade de poivron, ce serait sympa.
Ça y est, on a faim. André Lénart, parlons un petit peu du domaine de Cazeneuve et puis de l'appellation Pic-Saint-Loup. Vous faites partie des vignerons un peu fer de lance de cette appellation. Vous avez repris le domaine en 87.
Tout à fait, oui.
Donc ça fait une grosse trentaine d'années que vous travaillez sur ce territoire, ce terroir. Alors, en quelques mots, mais qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Vous avez commencé à faire du bio, à travailler en bio, en naturel. Le domaine aujourd'hui fait une trentaine d'hectares. 35,
tout à fait, oui. 35, oui.
Quel regard vous portez justement sur ces, bah, allez, ces 30 années vous avez participé à ce mouvement dont on a déjà, qu'on a déjà évoqué, bah, des vignerons du Languedoc, on réduit les volumes mais on monte un peu sur les coteaux. Oui. On essaye de faire des vins de qualité, des vins d'auteur, enfin en tout cas de monter en qualité. Ouais. Quel regard portez-vous sur ces années?
Mais je crois que l'histoire du domaine est un peu en parallèle de l'histoire de l'appellation et de la démarche dont on en parle depuis le début de l'émission en Languedoc. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un renouveau qui a été initié par certains de nos prédécesseurs pour nous prouver que le Languedoc avait d'autres destinations que de produire des vins de masse et des vins de table. Et je pense, alors ça remonte aux années 85, hein, puisque 1985, c'est l'accession du Languedoc à l'appellation d'origine contrôlée. Il faut savoir que les spécialistes de l'INAO, quand ils sont venus, n'étaient pas tout à fait persuadés que le Pic Saint-Loup faisait partie d'un terroir qui pouvait tirer son épingle du jeu, et qu'il a fallu se bagarrer pour faire partie de l'ensemble des terroirs qui ont été classés. Et puis à partir de là, je dirais, il y a eu une dynamique, mais une dynamique surtout humaine, hein, pour structurer un peu une démarche qualitative. Donc le Pic Saint-Loup, des vignerons qui se sont rassemblés et qui ont dit effectivement on a une démarche individuelle chacun dans nos domaines où on veut commercialiser des vins en bouteille, mais aussi il y a une démarche collective qui est importante et qui permettra d'accéder au niveau supérieur. Donc l'histoire du Pic Saint-Loup, c'est au début une histoire d'hommes et de femmes qui se sont chacun dans leur domaine investis pour faire monter la qualité, mais en même temps ont œuvré ensemble pour que l'appellation, le nom de l'appellation devienne une force au niveau du Languedoc.
Donc, Pic Saint-Loup est une de ces appellations. On a déjà cité les terrasses du Larzac.
Alors, Pic Saint-Loup a quelques caractéristiques. D'abord, c'est la plus septentrionale du Languedoc. Donc, c'est déjà la plus au nord du Languedoc en soi. Et puis, elle est adossée aux Cévennes, avec, me semble-t-il, plutôt une dominante argilo-calcaire hein, quand même sur les terroirs.
Tout à fait, oui.
Et je crois que le domaine est adossé à la cosse de l'Ortus.
Aux cosses de l'Ortus, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même des caractéristiques... un petit peu nordique, on va
un
dire.
Vers chez vous, on est dans les contreforts des Cévennes.
Oui, alors le Pic Saint-Loup, comme les terrasses du Larzac, on en a parlé tout à l'heure, fait partie des terroirs qui sont les plus septentrionaux de l'appellation Languedoc. On est coincé, on est à 10 km au nord contre les premiers contreforts du Massif Central. Effectivement, ça participe, je crois que les caractéristiques physiques de notre terroir, c'est une structure sur des calcaires, hein, on est essentiellement sur les calcaires, avec une variabilité de sol quand même, quand on rentre un peu dans le détail, qui se différencie. Et puis un facteur climatique, on a un climat qui est à la fois plus frais en termes de température moyenne sur l'année et plus arrosé en termes de pluviométrie tout au long de l'année. Et donc ça, je pense, ça participe réellement à deux choses. Ça participe d'abord au choix qu'on a fait en termes d'encépagement et d'orientation technique. Hein. Par exemple, on parlait des blancs. Je pense qu'on a des atouts sur notre terroir, comme d'autres terroirs en Languedoc, pour élaborer des grands blancs, eu égard à ce facteur climatique. Et puis aussi au choix de cépages. Hein. On a parlé de cépages traditionnels qu'on a essayé de maintenir, mais aussi des cépages qu'on a essayé de réintroduire et de contrôler sur notre terroir. Par exemple, comme la Syrah. La Syrah était un cépage qui a fait partie... des cépages qui ont permis de faire sortir un peu le Pic Saint-Loup. Alors aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus travailler qu'avec ce cépage, mais aujourd'hui, la Syrah nous a beaucoup aidés. Voilà.
Alors on a servi...
Et justement, une question, qu'est-ce qui rentre en fait en cépage dans l'AOC aujourd'hui, Pic Saint-Loup ? Qu'est-ce qui est dans l'AOC, qu'est-ce qui n'est pas dans l'AOC ?
Dans le décret.
Alors, peut-être un petit rappel, depuis 1994, on avait un décret, dans le décret Languedoc, on avait un décret spécifique à Pic Saint-Loup qui définissait les conditions de production en termes de cépage, de rendement, de conditions d'agrément. Dès l'année 2001, on a engagé une démarche, comme d'autres terroirs sur le Languedoc, pour avoir un deuxième niveau, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en appellation, le Languedoc se structure avec une appellation régionale qui aujourd'hui s'appelle Languedoc, hein, qui initialement était Coteau du Languedoc, mais qui aujourd'hui s'appelle Languedoc, et puis des sous-unités...
Une IGP, c'est ça ?
Non, une appellation.
Une appellation, pardon.
Une appellation, ouais, et en fait, des sous-unités, alors le terroir du Pic Saint-Loup est une de ces sous-unités, mais on a parlé des terrasses du Larzac, de la Clap, de Saint-Chinian, de Faugères, des terres de Sommières, enfin, des grès de Montpellier, voilà, et la volonté de ces sous-unités, c'est d'accéder à un deuxième niveau d'appellation. Et Pic Saint-Loup a été le premier terroir à demander cette reconnaissance par l'INAO en appellation propre. Bon, d'autres terroirs l'ont fait aussi, comme les terrasses du Larzac ou la Clap ou Picpoul de Pinet. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pic Saint-Loup a obtenu depuis 2017, donc 2017 est le premier millésime où les vins de notre terroir seront revendiqués en appellation Pixelloup contrôlé. Alors que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017, ils étaient Coteaux du Languedoc, Pixelloup. Ah, voilà, c'est une subtilité, mais bon. Et donc, pour répondre à la question.
Ce qui est le cas de cette bouteille.
Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs en 2017 pour parler de. Voilà, et alors, pour répondre à la question, on avait des normes, de notre cahier des charges définissait des règles en termes d'encépagement jusqu'à 2017. Et à l'occasion de notre passage en appellation spécifique, on a un peu toiletté, je dirais, notre cahier des charges. Mais les cépages majoritaires, c'est Syrah, Grenache, Mourvèdre, qui sont les trois cépages principaux. On a gardé le Carignan et le Cinsault et on a intégré un cépage comme la Counoise, qui est un cépage qui donne des résultats intéressants dans notre décret actuel.
Qui est un cépage en Châteauneuf. Je pense que c'est un des 13, de, un des 13 de Châteauneuf. Ouais.
La Counoise. Hein.
Ouais. Tout à fait. Et en blanc, du coup ? Vous avez des blancs
en blanc, alors Pixelloup, on n'a pas d'appellation ouais, blanc.
C'est plutôt rouge.
Les vignerons qui choisissent de faire des vins d'appellation en blanc le revendiquent en Languedoc. Donc aujourd'hui, alors je ne saurais pas. Il y a 13 cépages autorisés en Languedoc. Mmh. On en a parlé de plusieurs, mais voilà, c'est la Marsanne, la Roussanne, le Carignan, le Terré, le Viognier, le Grenache Blanc. Voilà.
Alors, ce vin qu'on a servi, c'est la cuvée Les Calcaires 2017. Goûtons-le. J'en profite pour glisser une petite anecdote, parce que, enfin, anecdote, c'est beaucoup dire, mais moi aussi, tu parlais de souvenirs de vin du Languedoc. Ben moi, mon premier souvenir de vin du Languedoc, c'est chez vous, André Lénard. On s'est rencontré ce jour-là, comme vous avez rencontré des centaines de gens qui viennent boire et déguster vos vins à la cave. Il se trouve en fait que juste en face de chez vous, il y a un endroit dont j'ai envie de dire un mot. Ça s'appelle l'Auberge du Cèdre, oui. Où moi j'ai passé quelques jours de vacances il y a quelques années. C'était avant la création de cette émission. C'était l'été en fait où commençait à se dessiner le projet de la Terre à Boire. Et c'est un endroit magnifique, vraiment. J'ai passé quelques jours, mais sublime. C'est une auberge, une vieille bâtisse du 19e, je crois, voire du 18e peut-être même, dans la nature. Voilà, c'est un endroit vraiment superbe, en plus qui est assez accessible. Voilà, c'est très familial, une cuisine provençale, une carte de vin somptueuse. Et juste en face, il suffit de traverser la route et on a le domaine de Cazeneuve. Et on peut déguster vos vins. Vous devez en avoir des clients comme ça qui arrivent bronzés, bien reposés et qui viennent déguster vos vins parce qu'ils sont en train de passer quelques jours.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la même unité, je dirais, au départ. Puisqu'en fait, moi, quand j'ai acheté le domaine en 87, la bâtisse auquel vous faites référence faisait partie du domaine. Et en fait, c'est un projet aussi, je pense qu'au-delà du lieu qui est effectivement, je crois, magique, c'est aussi un projet collectif puisqu'en fait... moi j'ai acheté, je me suis impliqué sur la partie viticole du domaine et les bâtiments en recréant la cave, etc. Donc avec mon épouse. Et après sur le bâtiment d'en face, donc l'auberge, c'est un projet collectif puisqu'on a acheté, on est 33 associés. Donc,
et vous êtes partie prenante de ce projet-là aussi.
Je suis partie prenante, oui, c'est un groupe de copains en fait.
Il est partout. Hein. Total, groupe total.
Non mais j'invite
non, mais je n'avais pas mis le temps, j'avais pas le temps et je pense que c'était quand même un gros chantier. Et du coup, comme la maison faisait partie du domaine, on a scindé les deux et moi je suis allé rechercher des copains un peu éparpillés aux quatre coins du monde en leur disant il y a quelque chose à faire là. Aujourd'hui, c'est Françoise et Lutz qui gèrent ça, qui sont des amis, qui sont associés et qui gèrent ça parfaitement. Et effectivement, comme vous le dites, je crois que c'est un lieu qui participe aussi à la découverte de notre appellation et on a beaucoup de clients de l'auberge qui, au-delà de chez moi, mais rayonnent dans les différents caveaux du Pixelloup quand ils sont en vacances.
Moi, je trouve ça, honnêtement, c'est un lieu relativement unique. En fait, dans des lieux pareils, la plupart du temps, des gens vont installer un service 4 étoiles avec un chef étoilé. Enfin, y a vraiment la matière pour faire un truc de très, très, très haut de gamme qui, du coup, devient inaccessible, en fait. Là, c'est tout l'inverse. C'est une auberge au sens auberge où c'est vraiment chaleureux. C'est tout à fait abordable en termes de prix. Il y a des chambres familiales où on peut avec deux pièces. Enfin voilà, tout est pensé pour qu'on s'y sente bien. La cuisine est modeste mais juste superbe. Et voilà, et il y a des beaux vins. Il y a une ambiance chaleureuse dans cet endroit. J'invite tout le monde à aller passer quelques jours à l'auberge du Cèdre. Et comme ça, vous n'avez que la route à traverser en face du terrain de boules là, et vous allez goûter les vins d'André Lénard. Qu'est-ce que ça nous dit ces calcaires 2017, Florence?
Les calcaires, je pense qu'on s'apporte bien son nom. On ressent vraiment la fraîcheur et la minéralité dans le vin, tout en ayant du caractère. Mais c'est pas la caricature des vins du Languedoc qui peuvent des fois être un peu chauds, un peu brûlants. Là, c'est fin et il y a des tanins, mais c'est très soyeux en bouche. C'est pas du tout âpre ou dur.
C'est pas cuit.
C'est pas cuit, oui, c'est frais.
Quel est l'assemblage pour ce vin, André
Léna? Alors, la cuvée des les calcaires, chez moi, c'est toujours un assemblage de Syrah, Mourvèdre et Carignan. Il y a 40% de Syrah et le reste, c'est Mourvèdre et Carignan. La caractéristique, il n'y a pas d'élevage, c'est un élevage en cuve béton traditionnel, il n'y a pas d'utilisation de bois. Et l'ambition de ce vin, c'est de faire des vins quand même qui ont une certaine structure, un certain potentiel de garde, avec de la fraîcheur. Je crois que aussi, ça a été un peu l'histoire de l'ensemble des vignerons de notre région. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, on connaissait pas trop notre terroir et on est allé au bout de ce que le terroir permettait. Et peut-être on a fait, notre mea culpa, hein, on a fait des erreurs dans l'extraction et la surutilisation du bois. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble des vignerons du Languedoc cherchent aussi la finesse, l'équilibre et la fraîcheur dans des vins. Donc peut-être on a revu un peu nos choix ou nos stratégies d'élevage. Hein. Donc c'est pour ça que cette cuvée et les calcaires ne voient pas du tout le bois. Et je crois que c'est quand même un pixel loup de belle facture qui a une possibilité de garde. Voilà, autour de trois cépages qui ont chacun leurs caractéristiques.
Est-ce que le fait d'être passé en bio, je crois que vous c'est 2010, c'est ça ?
2007.
2007. Le fait de passer en bio vous aide justement dans le fait d'aller chercher l'acidité, la fraîcheur qui permet justement d'avoir des vins plus profonds, plus légers, plus buvables.
Oui. Et puis je pense qu'au-delà de ça, moi, la première réflexion par rapport au bio, ça m'est venu un peu naturellement, c'est que quand on élabore des vins d'appellation, forcément, on parle du terroir. Bien sûr, on parle des cépages, bien sûr, on parle de l'itinéraire technique pour arriver au vin. Mais pour moi, la première chose, c'est de définir où les cépages sont plantés, dans quelles conditions on les produit, etc. Et moi, je me suis vite rendu compte à une incohérence majeure de parler des vins sans parler de la façon dont on élabore les vins. Et rapidement, j'en suis venu au niveau des itinéraires techniques, m'interdire l'utilisation de certains produits, de tous les produits chimiques. Et après, le constat, c'est effectivement de revenir au travail du sol, de refaire des labours, de réappréhender le terroir et de peut-être passer un peu plus de temps à voir le vignoble et à faire des observations plutôt que d'appliquer de façon bête et méchante, je dirais, les produits. Ça a participé, je crois, réellement à la régularité de la qualité et à mieux adapter les cépages au terroir.
Mathieu Boudet, au Trinquefougas, on vous demande des vins de Pic-Saint-Loup, du domaine de Cazeneuve, des terrasses du Larzac. Quelles sont les appellations qui sont un peu en vogue comme ça?
On me demande beaucoup des vins du domaine de Cazeneuve. Et oui.
C'est pas parce qu'André Lénard est reconnu sur mon premier.
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment.
On demande que ça d'ailleurs.
Non, c'est vraiment. chez nous, c'est vraiment un domaine phare de l'appellation Pic-Saint-Loup. Et les gens, enfin voilà, c'est toujours régulier, toujours dans la qualité, dans le travail. Et donc, c'est vraiment des vins.
Une valeur sûre.
Oui, voilà, exactement. Mais après, les appellations qui sont très en vogue en ce moment, c'est vraiment le Terrasse du Larzac, qu'on nous demande beaucoup. Les gens sont friands de découvrir ça.
Qui a été créé plus récemment, en fait.
2014, je crois, pour l'AOC.
Oui, exactement.
C'est à la mode au sens
actuel. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le seuil, là, en train de grimper, qui vont accéder un peu à cette reconnaissance?
Je sais pas, moi, je dirais qu'il y a. Bon, après, tout est relatif, mais je pense que les vins de Limoux, qui étaient un petit peu sous-considérés, remontent aussi un petit peu en qualité. Moi, j'ai bu des choses très, très bien en Picpoul, du Pinet, justement, pas que sur. Alors, même si c'est très agréable d'aller à l'Étanto et d'aller chercher un Picpoul un peu basique sur l'acidité, des choses un peu plus rondes sur les raisins sont travaillés plus en maturité, notamment.
Ouais, j'ai goûté des belles choses avec des notes très florales, assez fines, assez délicates.
Je pense que Limoux est. Enfin, après, on pourra en parler, mais parce que Faugère est hyper connu. Il y a
Florence,
Olivier Julien,
il était hier, parce qu'on était là hier soir, 2001.
2001, oui.
Limoux, Chardonnay de Limoux, 2001, c'était quand même magnifique.
Un vin qui a 18 ans, qui est bien tenu là.
C'était
la distance.
Superbe. C'était quoi le domaine?
Dic d'Aval.
Et j'ai juste une question, je m'excuse. On voit sur la bouteille quand même que c'est marqué 15 degrés, alors qu'on ne ressent pas du tout dans le vin. Mais comment vous gérez ou pas, on parle quand même un peu du réchauffement, mais slash allez, changement climatique. Est-ce que vous avez senti un impact sur les dernières années et comment vous le gérez si vous l'avez senti?
Oui. Ben, effectivement, alors je pense que 2017 fait partie de la série des millésimes, qui sont des millésimes chauds. Hein, on ne choisit pas. Je crois que ce qui est important de dire, c'est quand même pour faire des vins tels qu'on souhaite les proposer aux consommateurs, ben on est tenu à ramasser nos raisins à maturité, et que le stade de la maturité physiologique du raisin, on ne le choisit pas, et en fonction du millésime, on aura des raisins mûrs à 13 degrés de concentration en alcool, ou alors, comme 2017, il a fallu attendre des concentrations en sucre beaucoup plus élevées pour que les raisins, leur maturité physiologique soit atteinte, qui permettent ensuite en cave de travailler pour avoir les vins qu'on souhaite, c'est-à-dire avec des tanins fondus, etc., une complexité, voilà. Donc après, il est bien évident qu'on s'interdit, nous, toutes les procédures ou toutes les techniques de contrôle en cave. Je veux dire, pour moi, le vin est fait essentiellement, voire exclusivement avec du raisin. Donc on s'interdit toutes les pratiques correctives qu'on pourrait avoir en cave. Donc on a effectivement des millésimes, comme 2017, où on a des concentrations d'alcool un peu plus élevées. Alors après, effectivement, on parle du réchauffement climatique. Bon... on constate de plus en plus que dans les dernières années, on a plus de millésimes chauds comme 2017 que des millésimes plus frais comme 2014 ou 2006 ou 2009, voilà, où on avait des équilibres qui étaient plus intéressants pour faire les vins. Je crois qu'après, c'est un peu l'adaptation de l'itinéraire culturel. Hein, je pense, on a parlé beaucoup de du travail des sols. Je crois qu'aussi on s'est interdit longtemps la possibilité, alors nous sur Pixelloup on est un terroir, on n'a pas la possibilité d'irriguer, mais aujourd'hui je pense qu'à un certain moment, quand il y a des stress hydriques trop importants l'été, parce qu'on a des périodes quand même qui sont relativement chaudes en juillet août, le fait de pouvoir irriguer pas du tout pour augmenter les rendements, mais pour pallier à ce stress hydrique, permettrait, je pense, d'avoir des degrés au final qui soient moins élevés. Alors, c'est un grand débat qu'il n'y a qu'à la profession. On n'a pas tranché, mais je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là. Et puis après, il y a l'adaptation des cépages. Aujourd'hui, des secteurs de notre appellation, moi j'ai des souvenirs d'anciens qui me disaient là tu peux y aller, il n'y aura jamais de vignes, et bien aujourd'hui on s'aperçoit que c'est les terroirs les plus intéressants. Moi j'ai replanté par exemple 5 hectares de vignes sur le Causse de l'Ortus, on y faisait référence, c'est un secteur où il n'y a eu toujours que de l'élevage, c'est un secteur en altitude, on est à 400 mètres sur des orientations plein nord, et bien on s'aperçoit que les Syrahs, d'abord, elles ont des caractéristiques vraiment très nettes par rapport à notre vignoble à 100 mètres d'altitude, à 3 km de là. Et surtout, on a des concentrations en alcool, on a des Syrahs mûrs à 12,5. Quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à retravailler l'adaptation de nos cépages à nos terroirs.
Ouais, c'est très intéressant cette évolution. Maxime, tu avais une question?
Oui, j'avais une petite question justement sur la cuve béton, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de vignerons qui reviennent à la cuve béton. Et ce sont des vins que j'apprécie particulièrement, moi. Et savoir quels étaient les avantages, justement, de la cuve béton. Et une question subsidiaire, est-ce que vous avez songé à utiliser l'élevage en œuf? Ça, pareil, je le vois de plus en plus, les espèces de cuves en forme d'œuf en béton, elles aussi.
Oui, alors le béton, pourquoi le béton? C'est par rapport à l'inertie thermique. Hein, c'est-à-dire que l'intérêt du béton, c'est qu'il y a une inertie thermique qui fait que le vin à l'intérieur, il varie doucement. Et je crois que ça, c'est une règle d'or pour les vins qui soient en élevage ou en bouteille, de ne pas faire subir au vin des chocs thermiques trop importants ou des variations. Donc ça, le béton le permet. Et puis ensuite, c'est un contenant qui est quand même un peu comme le bois, mais de façon beaucoup moindre, poreux à l'oxygène. Et du coup, les élevages en cuve béton permettent cette micro-oxygénation lente qu'on n'a pas du tout dans la cuverie inox, par exemple. D'accord. Donc le choix du béton, il est... Alors après, il faut faire attention à quel béton on utilise, s'il est revêtu, s'il n'aura pas revêtu. Nous, on utilise des cuves béton qui sont non revêtues. Donc on a des contraintes un peu d'entretien plus importantes, mais qui permettent de faire des élevages tout à fait intéressants. Et après, sur l'œuf, oui, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de vignerons qui en sont venus à ce type de contenant. Moi, j'y crois plus pour les blancs, parce qu'il y a des phénomènes de convection qui sont de bâtonnage naturel qui sont intéressants pour ces cuves-là. Et je crois que oui, on y viendra. Mais j'en ai pas, moi, voilà.
D'accord, merci.
Pour la partie œuf, après, il y a une dimension... Les biodynamistes sont assez fervents de l'œuf hein, par rapport à des, ouais. à des mouvements, etc. Pour en avoir parlé rapidement à l'occasion avec Dominique Ovette, elle était assez biodynamiste, donc en Beaux-de-Provence, elle est assez croyante, on va dire. Mais après, c'est des questions d'approche.
L'œuf.
Elle croit en l'œuf, exactement.
Non, mais c'est vrai que sur les blancs, ça peut être très intéressant parce qu'il y a un effet de tapissage des lits et de vin qui se retrouve un peu plus en contact avec les lits. Et du coup, il mange un petit peu ses lits, il prend du gras, il prend du caractère, ça fait des très belles choses. Moi, j'ai souvenir d'un chenin de Loire sur un élevage en œuf. On avait vraiment un côté un petit peu plus gras, un peu plus de structure, un petit peu plus de matière qu'une autre cuvée avec des vignes qui venaient juste d'à côté, qui était sur un élevage en cuvinox.
Après, je pense qu'il n'y a pas d'absolu. C'est les expérimentations de tous les vignerons qui donnent du corps et de la vérité à tout ce qu'on vient de dire, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, je pense que, comme on a parlé du vignoble et de la progression du vignoble, je pense que les vignerons aussi, en cave, ont des réflexions qui font mûrir et qui font évoluer leurs pratiques en cave tout au long de l'année.
Alors, justement, André Lénard, pour conclure... 30 ans sont écoulés en gros depuis que vous avez repris le domaine et puis on a parlé de ce mouvement. Comment se dessine l'avenir? Est-ce que vous avez encore des projets? Vous avez envie d'améliorer certaines choses, de planter des choses? Vous avez parlé de ces nouvelles vignes sur le cost de l'Hortus. Voilà, comment vous envisagez la suite? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait jusqu'ici, que vous avez envie de faire? Vous êtes déjà les vins sont au top, ils sont parfaits, mais est-ce qu'il y a encore des défis devant vous?
Votre fils aussi
qui reprend le domaine.
Oui, alors je travaille avec un de mes fils maintenant qui s'est installé depuis 3 ans, mais j'ai envie de dire la question, moi de répondre à la question d'abord par rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que je pense qu'une démarche d'appellation, c'est une démarche qui doit s'entretenir tout le temps, au quotidien et régulièrement, et aujourd'hui je pense qu'une notoriété ou une image, que ce soit d'un domaine, d'une appellation ou d'une région, elle sera plus vite mise à bas qu'elle a été nécessaire, le temps qu'elle a été nécessaire pour la construire. Donc aujourd'hui, je pense que tous les jours, il faut remettre sur le métier notre ouvrage. Il faut continuer à être interpellé. Alors ça se passe dans nos domaines. Hein. Nous, effectivement, on a des réflexions sur la restructuration du vignoble. Par exemple, sur la densité, aujourd'hui, on a fait des erreurs d'implantation de densité. Aujourd'hui, on travaille sur des densités plus élevées. Donc, on est en train de restructurer un peu le vignoble sur des densités plus élevées. On retravaille sur l'implantation de nos cépages. Et puis, on en a parlé, en cave, on a toujours des challenges à relever. Hein. Mais après, je pense qu'il faut surtout garder la ligne de conduite qu'on s'est donnée et dire... on élabore des vins avec une certaine typicité, il faut maintenir ça aussi pour l'image de l'appellation. Quoi.
Et dans la continuité, je crois qu'il y a aussi maintenant une certaine popularité, parce que là, il y a les vignes buissonnières, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est l'événement...
donc le no-tourisme est un axe, c'est là, c'est maintenant. Là.
Oui, effectivement. Alors nous, sur l'appellation Pic Saint-Loup, on n'avait pas de gros moyens. Quand on a démarré, on n'avait pas de budget de communication ou de moyens. On s'était dit il faudra trouver une idée pour faire parler toute l'année de notre terroir et de nos vins. Et l'idée qu'on a trouvée il y a maintenant presque 20 ans, c'était d'organiser un gros événement sur un week-end. Donc il y a un événement grand public qui est ouvert à tout public et qui est la présentation de nos vins, de l'ensemble de l'appellation, donc des 75 vignerons du Pic Saint-Loup, au milieu des vignes, sur le terroir. Et donc c'est une manifestation qui a lieu, Mathieu la connaît bien pour la soutenir, qui a lieu au milieu des vignes, chaque année dans une commune différente, puisque le Pic Saint-Loup, c'est 16 communes. Et en fait, l'idée, c'est une présentation de menu élaboré par un chef. Donc cette année, c'est la réserve Rimbaud qui nous a préparé le menu. La suite de plats est présentée chaque fois dans un poste différent avec une association de vins des vignerons qui sont présents.
C'est une belle randonnée à faire en Pic Saint-Loup, ouais, ouais.
Un grand moment de convivialité, de dégustation, de découverte.
Et puis ça fait des petits, parce que je crois que moi, plus régionalement, pour ma région près de Saint-Etienne, les Côtes-Troisnaises, depuis 2-3 ans, font ça également. Une visite, dégustation dans le vignoble avec des restaurateurs. Il y a 3 gros dans le coin et ses influences. Mais voilà, donc ça a fait des petits et je crois que c'est une belle manière d'aller découvrir les terroirs sur place, quoi.
Et les vignerons.
En live, et les vignerons, bien sûr.
Et les vignerons, et les vins, et boire les vins dans la parcelle.
Oui, puis de voir le terroir, quoi. Enfin, ouais, parce qu'on est dans les vignes, donc on voit les découpes, les orientations, etc. Je pense.
Mais je crois que c'est un peu la spécificité de notre métier, c'est-à-dire qu'on élabore un produit qui est destiné aux consommateurs, mais je pense que le consommateur, qui souvent sont des gens qui deviennent des amis, sont friands de connaître un peu les conditions dans lesquelles les vins sont élaborés, le cadre naturel, l'histoire des hommes du territoire, etc. Et ça, c'est un peu le pari de cet événement qu'on a souhaité mettre en place sur Pic Saint-Loup.
Les vignes buissonnières. Merci infiniment André Lénard. Merci Mathieu Boudet, merci de nous accueillir au Train Fougas et puis voilà d'avoir participé à l'émission. On va faire une pause parce que ce 50e épisode va être double. Donc ça c'était la première partie et je vous annonce que dans la deuxième partie, on va avoir une petite tendance Women Do Wine. Tu ne seras pas toute seule, Florence, à représenter ce mouvement des femmes du vin. Merci à tous, André, Mathieu, merci Maxime,
merci.
Patrice, merci. Florence, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce 50e épisode. À très vite, ciao.